C'est le moment de retrouver Luc Lavoie. Salut Luc, est-ce que tu as écouté... Salut. Est-ce que tu as entendu le docteur Weiss?
As-tu eu temps non, de malheureusement pas. Alors, que nous a-t-il appris que je n'ai pas entendu?
Écoute, il nous a appris, en fait, que nous devons être très vigilants. Que effectivement, ce qui peut nous troubler, c'est de voir que il y a un clivage énorme entre les pays riches et les pays pauvres et oui. qu'il y a à peine X pour cent de la planète de vaccinés, ne serait-ce qu'une seule fois, alors qu'il y a des milliards et des milliards d'individus sur Terre. Ils pensent que ça va prendre des années avant que cette situation-là de vivre sans variant de la COVID puisse se produire, mais que... La bulle nord-américaine, de même qu'une certaine partie de la bulle européenne, si j'ai bien compris, sont relativement en bonne position, mais il va falloir continuer d'être sensible. Le vaccin étant la solution pour le moment.
Et tu as raison, parce que je pense que le chiffre, c'est à peu près 2,5% des habitants de la planète Terre qui ont été vaccinés. Et on n'a pas besoin de se faire des dessins, on les trouve dans tous les pays riches. Et les pays pauvres sont laissés pour compte et il va falloir faire quelque chose. Je sais que les Américains ont commencé à envoyer 25 millions de doses dans certains pays, 10 millions ailleurs et tout. Le Canada aussi y participe. Mais il s'agit encore une fois, je dirais pas de gestes marginaux, mais ça reste que c'est pas assez. Puis je le répète très souvent, parfois il n'y a rien de mal à être un peu... égoïste. Par pur égoïsme, il faut que ces gens-là soient vaccinés. Sans ça, ils vont devenir des laboratoires à variants. Ils vont transporter des mutants, puis ils vont nous rejoindre, puis ça n'arrêtera jamais. Alors, il faut... J'ai un énorme respect pour Carl Weiss, tous ces experts qui ont fait surface ou qui sont devenus connus pendant la pandémie. Je trouve que c'est un des meilleurs pour vulgariser la situation.
Absolument.
Alors, dans ce sens-là, évidemment, je l'écoute. Il est pour moi le docteur Fauci du Canada. Vous savez, le docteur Fauci aux États-Unis,
oui.
Que tout le monde admire et à juste titre, en fait, le gars dit la vérité, puis mon Dieu, ça s'avère toujours ce qu'il dit être là. Alors, oui. Je pense que Weiss est notre Fauci, une certaine okay. sagesse et puis une beaucoup, beaucoup d'expertise.
Parfait. Alors, donc, si on faisait un léger tour, tant ici au Québec qu'ailleurs, parce qu'on sent de petites hausses, et ça, c'est intéressant, là, que je veux juste rajouter sur l'affaire de Weiss, qu'il nous a expliqué ça, c'est que il faudrait commencer à segmenter un peu qu'est-ce que c'est quand on dit un cas, une contamination. Parce que est-ce que ce sont des gens qui ont été vaccinés, pas vaccinés? Est-ce que ce sont des gens qui sont des conditions préalables? Est-ce qu'ils sont hospitalisés, pas hospitalisés? Parce que tout ça, évidemment, si je dis il y a 100 patients, il y a 100 personnes qui ont été contaminées, mais qu'il y en a un à l'hôpital, on s'entend qu'on n'est pas dans la même problématique qu'initialement.
Mais à l'heure actuelle, je comprends qu'il veut aller vers une plus grande segmentation pour qu'on comprenne mieux le casse-tête, là. Mais à l'heure actuelle, on dispose quand même de pas mal d'informations concernant les cas qui apparaissent.
Parfait.
Alors, aujourd'hui, on parle de 76 cas au Québec et aucun décès. Puis, mais le nombre de cas, il a légèrement augmenté. Le Québec a enregistré 511 cas au cours de la dernière semaine contre 478 durant la semaine précédente.
Est-ce significatif ou ponctuel?
C'est la vraie question. Et écoute, ce qui va suivre, je pense que c'est ça qui est important pour nos auditeurs. L'augmentation se concentre principalement chez les jeunes adultes. Les 20 à 29 ans affichent une augmentation de 43 % du nombre des cas sur une semaine. Les 30 à 39 ans ont vu leur nombre de cas grimper de 20 % en 7 jours. Puis à l'inverse, la majorité des autres tranches d'âge affichent une baisse ou une tendance stable. Ce que ça veut dire, le paquet de chiffres que je viens d'envoyer, c'est que les gens qui ont été vaccinés...
S'en sortent mieux.
Ils s'en sortent non seulement mieux, presque dans tous les cas, ne se retrouvent même pas à l'hôpital.
Exact.
Il y a encore moins dans les soins intensifs. Alors, ce que ça dit, là, je viens de les donner, les groupes d'âge, là, allez vous faire vacciner! Je veux dire, on va tous en profiter. Allez vous faire vacciner, ça presse!
Ce qui est intéressant de voir dans l'évolution des choses, c'est que je me souviens qu'au début de la pandémie, on disait que les plus jeunes gens dans la vingtaine, etc., était moins atteint, moins touché, tu vois. Et puis là, ça rattrape tout le monde, là, dans le fond.
Mais moi, tu vois, je vais revenir à Carl Weiss, parce que je me souviens dans une entrevue qu'à un moment donné, il nous avait fait un portrait du virus comme étant un être sensé, Tu sais, disons, disons que le virus est plus qu'un virus, c'est quelqu'un qui vit, là. Oui. Mais le virus, il cherche quoi? Il cherche les personnes les plus vulnérables sur lesquelles s'accrocher, puis se développer, puis faire tout ce qu'il y a de mal à faire. Ça, c'est ça. Alors, au départ, ça a frappé les gens plus âgés. On n'a pas besoin de se faire de dessin. On est parfaitement conscient, toi et moi, qu'à 25 ans, probablement, que le système immunitaire est plus fort qu'à 70 ans.
Alors, probablement. Et en plus, par exemple, on est plus, on était vulnérable dans nos têtes à ces âges-là.
Tu veux dire quoi exactement?
Ben, tu sais qu'il y arrive rien. Il y a une témérité qui s'installe avec, dans la jeunesse et qui tend à s'estomper.
Ça se peut. Ça se peut. Mais j'aimerais tellement que les gens arrêtent, parce que j'en vois encore Jean-Luc qui m'écrivent des trucs, là. Il y a des gens, là, il y a une femme, je nommerai pas son nom, là. Elle est carrément obsédée par le fait que cette pandémie est fausse, puis toutes les espèces de... Alors, elle m'inonde mon service de courriel, là, puis je m'en plains pas, de toutes sortes d'exemples qu'elle trouve sur l'Internet pour démontrer que c'est pas vrai, puis que le vaccin est plus dangereux que l'absence de vaccin. Puis, écoute, j'aimerais aider cette femme-là. J'y ai écrit, d'ailleurs, pour lui dire, écoutez, madame, ce que vous dites est tellement alarmant, alarmiste et tout ce qu'on veut, que vous devriez arrêter. Vous allez vous rendre malade à faire une chose comme celle-là. Et évidemment, j'avais en tête le cas d'une femme. Je sais pas si tu te souviens, il y a à peu près un mois et demi, deux mois, la femme qui était une chanteuse de musique country, une femme que tout le monde aimait, tout ça, mais qui était devenue obsédée, obsédée par le vaccin, puis qui participait à tout ce qu'il y avait de manif anti-vaccin, puis elle a attrapé la COVID, puis elle en est morte. Et avant de mourir, elle a dit aux gens, écoutez, il existe, là, il existe.
Je me suis trompé.
Je me suis trompé, puis s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. Alors, j'ajoute ma voix et la tienne à ces gens-là pour dire, écoute, faites-vous vacciner.
La crainte a deux effets. Hein. Elle peut te pousser à te faire vacciner, puis elle peut te pousser à te conforter dans le fait que c'est un complot de toute nature pour t'attaquer. Ainsi donc, tu trouves ta raison et ta justification dans à peu près toutes les sources possibles et imaginables.
Mais d'où vient cette idée que tous nos scientifiques seraient des menteurs? D'où vient cette idée que tous ces gens qui ont passé 10 ans à l'université et qui continuent de faire des travaux de recherche seraient tous en train de nous mentir? Comment être capable de bâtir dans sa tête une telle vision des choses? Je t'avoue que ça me dépasse complètement.
Ben, comment tu fais pour embarquer du monde dans des religions X, Y, Z depuis des millénaires, voilà, avec des histoires qui sont sans qu'une ni tête dans bien des cas?
Puis les sectes étant un exemple extrême, mais même les religions elles-mêmes transportent.
On joue avec l'être humain, hein? Alors on joue avec un variable qui est difficilement contrôlable.
Et pour revenir à ce qu'on disait au début, à savoir que il y a certains pays qui sont plus vaccinés que d'autres et comme ça. Pourtant, la France, ils ont beaucoup de difficultés en France avec la vaccination.
18 000 cas hier, là, aujourd'hui.
18 000 cas en 24 heures. C'était 7 000 une semaine avant. Écoute, c'est une augmentation de 150 % sur une semaine. Ils n'ont pas vu un tel niveau de cas positifs depuis la mi-mai. Puis... les jeunes, présentement, sont toujours ceux qui sont touchés. Puis là, on se dit, ben ça va finir par déborder, puis on va encore se retrouver avec des hôpitaux qui sont incapables de répondre à la demande.
Mais Weiss le disait tantôt, tu sais, il y a des pays qui va falloir absolument soutenir, aider et faire avancer. Parce
ça
que
presse.
Il y a des concentrations, des souches importantes de virus qui sont, je ne sais pas moi, en d'autres pays, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, le Sud-Afrique.
Ouais, mais ce qui est plus triste, là, c'est que je regarde le chiffre ici, Jean-Luc, de l'Inde, le deuxième pays le plus populeux au monde, et surtout le plus grand producteur de vaccins au monde. Ils en ont fait un domaine d'expertise. Mais leurs vaccins qu'ils produisent en Inde, il y en a les 95 % qui sont destinés à l'exportation. Ce qu'on a servi aux gens d'AstraZeneca, là, moi j'ai été vacciné à AstraZeneca, ça s'appelait Covishield. C'est la version produite en Inde du AstraZeneca. Alors je regarde en Inde, le nombre de personnes mortes de la COVID en Inde pourrait être 10 fois supérieur au bilan officiel qui est actuellement proche de 415 000. Et ça, c'est une étude américaine qui... Ça nous démontre qu'écoute, ils ont tout fait en Inde pour être dans le trouble. Les fêtes religieuses, ils n'ont rien fait pour les modifier. Les foules se regroupaient, non seulement ça, mais ils étaient en élection comme au niveau provincial. Puis le président du pays, ou le premier ministre du pays, faisaient des rassemblements politiques qui mieux pendant que les cas montaient.
Ah, mais ça s'est vu même aux États-Unis.
Ça s'est vu en partie. Ah, effectivement. Tu as complètement raison de le dire. D'ailleurs, ça continue de se voir aux États-Unis.
Ben oui, c'est ça.
Puis en Iran, qui était un des premiers pays au tout début de la pandémie à y goûter, là, je sais pas si tu te souviens de cette histoire des scientifiques qui étaient en Iran puis sont allés en Italie. Enfin, peut-être pas, mais oui. L'Iran a été un des premiers pays qui a reçu de la Chine ce vaccin-là par des gens probablement qui s'amenaient en Iran. Et là, aujourd'hui, un nouveau record de contamination, 27 444 nouveaux cas et 250 décès.
Et ces statistiques sont-elles fiables? Parce que tu sais que...
Non, elles ne le sont pas. Ben non, voilà. Elles ne le sont pas.
Je comprends. Mais ça devrait être pire. J'ai lu qu'il y avait un indice, probablement, d'études qui faisaient en sorte qu'on pourrait multiplier par 10 le nombre de cas officiellement déclarés.
Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, on parle de 4 100 000 cas. Moi, à force de lire puis d'écouter, puis tout ça, je te dis que ça doit être proche de 10 millions. Ça doit être ça, le vrai chiffre.
Jupiter. Hey, dis-moi, là, parlons de d'autres choses, OK?
Parlons d'autres choses.
Ben, le logiciel là, israélien qui viendrait, je ne sais pas moi, mettre en pièce des informations ou obtenir des informations, je n'ai pas suivi ça tellement. Explique-moi ça.
Bon, alors, il y a une compagnie israélienne. D'abord, il faut savoir, Jean-Luc, que Israël est devenu ou est considéré dans le monde entier comme le plus grand centre d'expertise dans le contrôle des foules, de l'identification de... Alors, parce qu'ils ont développé ça pour eux-mêmes, toujours en conflit avec leurs voisins. Et là, il y en a une de ces compagnies-là qui est très, très connue dans le monde, dans ce monde-là, qui s'appelle NSO, qui est une compagnie israélienne. Elle vend un logiciel que tu es capable d'aller chercher dans le téléphone de M. Jean-Luc Mongrain. Tu verras jamais rien, il n'y a rien qui va paraître, mais tu le sais pas. Mais pendant que c'est là, tout le monde peut t'écouter. Écoute, regarde ce que ça dit. Ce fameux logiciel espion qui s'appelle Pegasus permet d'avoir entièrement accès au contenu du téléphone des victimes, comprenant des textos, courriels, l'activité sur Internet, son micro, son appareil photo, les appels téléphoniques et les contacts. Alors, il y a eu une grande enquête journalistique qui a été menée et qui a impliqué de nombreux journalistes, 17 médias dans 10 pays, et puis ils ont découvert que Pegasus, il y a 50 000 numéros de téléphone. Et là, on n'est pas sûr. Est-ce que cette liste de 50 000 concerne des gens qui ont été espionnés ou qui sont sur le point de l'être ou qui l'ont été? Ça, c'est pas complètement clair à l'heure actuelle. Mais on parle quand même à l'heure actuelle, là. On va juste aller voir ça et attendre une seconde parce que je viens d'avoir cette information. Là.
C'est un risque important là, de contrôle de tes faits et gestes, de ce que
incroyable.
Tu penses, de ce que tu dis, de ce que tu contactes, les gens qui font partie de ton réseau. C'est tout ça. Là,
Exactement. Et puis, je viens juste de voir du Washington Post là, qui a passé à travers les 50 000 numéros. Et puis, voici qui on trouve là, de façon sûre, puis ça se peut qu'il y en ait d'autres. Alors, Emmanuel Macron, ses téléphones étaient sous écoute. Bahram Salih, c'est le grand patron de l'Irak. Ramphosa de l'Afrique du Sud. Le premier ministre de l'Inde, le premier ministre de l'Égypte, puis le premier ministre du Maroc. Et puis tout un paquet d'anciens premiers ministres, dont Saad Hariri, qui était le premier ministre du Liban. Alors, puis un roi. On fera pas ça à peu près, là. Il y a même le roi du Maroc, Mohamed VI, qui est également sous enquête, sur écoute, ou qui était sur écoute. On n'a pas encore pu vérifier complètement si c'était le cas, mais c'est énorme.
Puis mais écoute-moi, ça... je veux juste comprendre une chose. Pegasus, c'est une création faite en Israël, mais c'est pas le gouvernement israélien qui utilise Pegasus pour obtenir des informations.
C'est-tu ça? Tu peux être sûr que... Ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Écoute, toi qui aimes lire, Jean-Luc, ça me permet de faire une espèce de coq à l'âne puis te dire, un livre que tu devrais lire, c'est Israel Super Spy. C'est l'histoire de Robert Maxwell, qu'on a connu au Québec, oui. parce qu'il a investi avec M. Péladeau dans le temps, dans une usine de, dans le, les pâtes et papiers.
Les pâtes et papiers.
Ça s'appelait Donahue, je crois.
Ouais.
Alors, Robert Maxwell a laissé une empreinte au Québec, mais Robert Maxwell est mort assassiné à l'automne 91.
Ben oui, on l'a trouvé en bas de son bateau.
En bas de son bateau, dans l'eau. Et puis là, ils ont laissé croire que c'était peut-être une noyade accidentelle, mais le livre dont je te parle, Israel Super Spy, démontre, il n'y a jamais eu de poursuite, jamais personne les a contredits, que c'était un meurtre très bien calculé. Or, que faisait Robert Maxwell pour le Mossad, le service secret israélien? Il vendait un logiciel qui s'appelait pas Pegasus, mais qui s'appelait, je me souviens plus du nom, et qui faisait essentiellement la même chose, mais Pegasus, c'est comme une version, imagine-toi, 30 ans plus tard. Alors, la technologie a drôlement évolué.
Sûrement.
Et moi, j'en suis au point, Jean-Luc, je pense qu'il va falloir qu'on se quitte là-dessus, où je tiens pour acquis que je suis toujours hacké. Tu comprends-tu ce que
oui,
je veux dire?
Je comprends très bien.
J'aime mieux penser que je le suis puis je vais faire attention que de me dire non, 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 grâce à ceci, grâce à cela. La technologie est tellement avancée et Israël est tellement avancé dans ce type de technologie que dites-vous que tôt ou tard, ou probablement maintenant, vous êtes sous écoute d'un ou de l'autre.
Juste pour resituer les gens en rapport avec Robert Maxwell, c'est le papa de cette dame qui,
de Ghislaine Maxwell, oui.
qui était à la rabatteuse pour Epstein.
Voilà.
Et qui est devant la justice et en prison.
Et je soulève une question que j'ai déjà soulevée dans cette émission, pour avoir, je me suis consacré à tout ce que j'ai pu lire là-dessus. J'aimerais vraiment savoir d'où venait l'argent de Epstein. J'aimerais vraiment savoir qui était vraiment ce Epstein et qu'est-ce qu'il faisait avec Ghislaine Maxwell. En d'autres mots, et là, je le mets dans la bouche de quelqu'un d'autre, là, j'ai lu des analyses qui disent Epstein, là, c'était un espion dormant de l'État d'Israël et sa mission sur la Terre, c'était de corrompre le plus grand nombre de personnes possible pour qu'un jour, si Israël en a besoin, il puisse s'en servir.
Les manipuler.
Je n'ai pas de preuves de ce que j'avance,
non, je comprends.
Mais j'ai vraiment un feeling que ça ressemble à ça.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça viendrait dire « follow the money ».
Tout le
c'est
temps.
Toujours follow la même money. Réalité. Suivez tout l'argent, temps. Vous allez peut-être trouver le mobile et les responsables. Merci beaucoup, Luc.
Mais, je recommande ce livre-là. Ça remonte à il y a une quinzaine d'années, mais c'est vraiment, ça se lit comme un roman. Israel Super Spy, l'histoire de Robert Maxwell.
Parfait. Je regarde ça avec intérêt. Merci beaucoup, Luc. On se retrouve demain, bien sûr.
Salut, Jean-Luc.
Salut bien. Et au retour de la pause, on s'en va en France parce que 18 000 cas de contamination en 24 heures, c'est quand même assez significatif.